qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Une émission sur l'orientation professionnelle proposée par les 3e prépa pro du lycée Thomas Dumoret.
Bonjour à tous et bienvenue dans « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», l'émission qui met l'orientation professionnelle dans les mains de ceux qui la vivent, c'est-à-dire les élèves. Au sommaire de cette dernière émission de l'année, les métiers en lien avec les animaux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa, Jason, Kéliane, Stéphane et Thomas, avec qui nous avons préparé cette émission. Bonjour.
Bonjour. Pff,
mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Selon le site lesmétiers.net, la France compte 60 millions d'animaux de compagnie. Leur maître dépend chaque année 35 milliards d'euros pour eux. Cela signifie qu'il y a du travail et des personnes employées pour s'en occuper. Il y a par exemple 20 000 vétérinaires ou 4 000 entreprises de toilettage. L'Institut français du libre service, IFLS, a recensé un total de 800 animaleries en France.
Mais il existe de nombreux autres domaines professionnels où l'on est en contact avec les animaux, l'élevage, le dressage, l'animation. On tente aujourd'hui d'apporter un petit éclairage, alors on fait le beau et on dresse bien les oreilles.
Amis des animaux et amis animaux aussi, cette émission est faite pour vous, c'est parti.
Et nous commençons donc cette émission par le reportage.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Le reportage. Nous sommes allés visiter le site de la Société protectrice des animaux de Châtenois-le-Royal. Nous avons pu observer les équipes au travail le matin où l'établissement est fermé au public. Nous avons vu des salariés nettoyer les boxes des chiens et les chatteries. Et nous avons vu comment les animaux sont nourris et soignés. Mais d'abord, nous avons été reçus par Madame Marion Durie, bénévole à la SPA.
Je suis bénévole à la SPA depuis 2 ans maintenant. Je passais beaucoup devant. Une idée un peu négative à l'origine sur la SPA, quand je passais devant, les bruits et surtout cette idée que certainement on euthanasie en masse. J'avais vraiment cette idée-là et la peur de rentrer là aussi, hein, la crainte d'être bouleversée en rentrant ici, de voir tous ces animaux enfermés là. Et puis j'ai poussé la porte un jour, c'était quand même plus fort, je passais au-delà. Et finalement, mon regard a totalement changé. C'est pas du tout des euthanasies de masse qu'on fait à SPA. Et au contraire, quand on vit ici, on offre plein de moments de bonheur aux chiens. Après, les chiens, par contre, réellement, on leur permet de sortir. On vérifie que tout aille bien. On les promène une heure. Et voilà, et on contribue de fait à leur bien-être mental parce qu'ils sont quand même enfermés au quotidien et ce pour une durée. On ne connaît pas parce que c'est au bon vouloir des adoptants et donc ils peuvent être là quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc.
Elle nous a ensuite expliqué un peu plus les actions des bénévoles.
On est une équipe, on doit être une quinzaine de bénévoles, je dirais, oui. Et on tourne tous les jours, il y a du monde, et on essaye, on fait en sorte que tous les chiens sortent. Quotidiennement, c'est difficile, mais qu'il y ait un roulement quand même, qui sortent tous, au moins un jour sur deux. Voilà, donc moi, ce que je fais ici, voilà, c'est du bénévolat, une à deux fois par semaine. Et dans le bénévolat, c'est de la détente, prendre soin des chiens et d'éducation aussi, parce que c'est des chiens qu'on a envie de faire adopter. Et pour qu'ils soient adoptés, adoptables, il faut qu'ils soient quand même un minimum dressés, en fait. Parce que si c'est du grand n'importe quoi et que les gens ne s'y retrouvent pas, c'est compliqué. Ils ont moins de chances de partir. Et donc, et les chiens aiment ça. Apprendre, c'est aussi constitutif de ne pas péter un plomb complètement dans les cages non plus à l'extérieur. Et donc, voilà, on leur apporte tout ça. Des balades, d'éducatifs, et puis on fait en sorte que tout ça, ça contribue à ce qu'ils partent à un moment donné.
Mais au fait, que fait la SPA lors d'un abandon et comment fait-on pour adopter un animal ?
Quel est le prix quand on emmène un chien à la SPA ?
Alors, quand on l'abandonne ?
Oui.
Quand on l'abandonne, on doit payer normalement une trentaine d'euros. Après, donc on a ce tarif et puis surtout la prise en charge de l'animal. le fait que les gens s'expliquent quand même sur l'abandon, parce que c'est pas rien, hein, quand on prend un animal, on est quand même censé s'en occuper jusqu'au bout, et donc nous on veut bien, mais on aime bien quand même avoir une explication. Et après, fort heureusement, il y a les adoptions. Et ces adoptions, c'est pour les chiens 112 euros, une adoption, 50 euros pour un chien senior. Et pour les chats, c'est de 72 à 98 euros. Et ils partent vaccinés, tatoués, et stérilisés, castrés pour les chats, et stérilisés, castrés pour les chiens de catégorie.
Et effectivement, on les a vus, ou plutôt entendus, et effectivement, cela fait beaucoup de bruit. Alors, on a visité les espaces d'accueil dévolus aux chiens. Attention, tendez l'oreille pour entendre la voix de notre guide derrière les nombreux aboiements.
Il sort un chien, il va le mettre dans une cour. Pendant que le chien va à la cour, il va nettoyer le bol du chien, remplacer l'eau, remettre une couverture et ramener le chien. C'est ça tout le matin. Voilà, le nom, numéro. Il est très peureux. Il est très gentil, mais il a des fois un peu terré au fond du truc. Lui aussi, il a peur. Ceux qui sont marqués n'ont pas sorti ou là, pas disponible à l'adoption, c'est parce qu'ils sont encore en fourrière, ce qui veut dire que la SPA, tout devant, a aussi une fourrière de la ville de Chalon. Et du coup, elle prend tous les animaux qui sont amenés. Alors ça peut être beaucoup, hein. Des biches, des fois. Au bout de 10 jours, si on n'a pas retrouvé de propriétaire, personne ne nous a appelé, ils sont passés côté refuge et vaccinés. Au bout de 10 jours. Et là, c'est parce qu'il y a un manque de place en fourrière. Donc là, tous les vendredis, il y a un vétérinaire qui vient voir les animaux ici, s'il y a des urgences qui n'ont pas été vues pendant la semaine. Vaccination et tatouage. Excessivement vigilant et strict entre guillemets sur les animaux qui partent, hein, parce qu'on en a trop qui arrivent en fait. Et du coup voilà, c'est surtout des discussions avec les gens sur le pourquoi l'adoption, le lieu de l'adoption, et on fait des visites avant l'adoption et après. Un tableau avec tous les chiens qui sont référencés. Donc pour les bénévoles, en fait là c'est l'espace bénévole on va dire. Voilà, donc tous les chiens sont marqués. Tout là où il y a des ronds, c'est tous les chiens qui vont devoir sortir encore dans les cours. Donc si nous on arrive et qu'on voit il faut en sortir, il faut tous sortir, on dit tiens il va sortir Fabulos. Je vais enlever le rond pour dire que c'est bon, je l'ai emmené en promenade, il n'y a pas besoin de le sortir dans une cour. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui aident les salariés à savoir qui sort et. Là ce matin, c'est leur repère pour ce matin. Puis ils vont refaire pour cet après-midi pour les bénévoles le tableau. Donc il y a des chiens hein, ici qui partiront pas, on le sait, mais voilà. Ils sont quand même, on pense, bien avec nous.
Du coup, en moyenne, il y en a combien qui partent à peu près ?
Par semaine ?
Par semaine, oui.
J'aurais du mal à répondre à cette question. Je pense qu'en chat, on doit en faire, il doit y en avoir 3, 4 qui partent par semaine, 4, 5, allez. Et en chien, 2, 3, 4, pareil. C'est difficile parce que ça dépend des périodes aussi. Là, en ce moment, les gens recherchent des chatons. Donc, s'il y a des chatons, il y en a beaucoup qui vont partir. Voilà, ça dépend vraiment des phases. Mais en moyenne, 4-5.
Oh non.
Pour les chats ?
Oui. Ouais. J'aime trop les chats.
Je sens ça depuis tout à l'heure.
Ouais.
On a été voir les chatteries. Et avec les chats, c'est pas du tout la même chose. C'est dingue.
Oh, il veut des câlins.
Oui. Il est très sympa, lui. Hein.
Alors les chats blancs sont 90% du temps sourds.
Oui. Et vous avez des petits bébés? Des chatons?
Il n'y a pas encore pour l'instant.
Non, c'est plus...
Ah,
voilà,
regardez.
Allez,
ça.
Il a un beau poil, lui.
Oh, je sens trop amoureux sur le chat.
T'as beaucoup...
Il est tout fou. J'ai rien fait. Ça fait pas mal.
Il est joué à reliant.
Il fait des bisous. Il me l'a planté. Lui, il est mort.
Alors, mais les chats qui sont dehors, ils restent pas tout le temps dehors?
Non, parce qu'ils peuvent rentrer par la baie vitrée. Puis il y a aussi, là, ici, il y a une chatière. Hein. Là, il doit y avoir la
Ah oui, il y a, là. Il y a un petit trou pour qu'ils...
Voilà. Voilà.
Ah, eux, ils sortent quand ils veulent.
Là aussi, je vais chercher, en fait. Là aussi, il y a le bout.
Et eux, non.
Ouais, non, cage. Eux, non. Donc, du coup, quand la porte, quand les chatteries sont finies et que le soir, quand ils ferment, il y a un chat... Et il y en a un qui est dehors pour toute la nuit, dans tout l'espace. Là. Mais un seul.
Ah non, dans l'espace là.
Ouais, dans tous ceux qui sont dans les boxes là, il y en a encore là-bas. Il y en a beaucoup. À peu près 80 chats. Non, ils sont là. Ouais.
Et pourquoi ils sortent pas comme eux?
Parce qu'il n'y a pas l'espace. Ah oui. Les gens aussi, ils
font des caprices.
Voilà, c'était un tout petit aperçu du travail important réalisé à la SPA de Châtenois-le-Royal. Les visites sont possibles tout l'après-midi à partir de 14h si vous voulez adopter un animal. Pour être bénévole, il faut avoir plus de 18 ans. Merci beaucoup à toute l'équipe de la SPA de Châtenois pour son accueil. Et merci en particulier à Marion Diry pour le temps passé avec nous et toutes les explications apportées.
Merci Jason. On fait maintenant une petite pause musicale. On écoute tout de suite Gradure Illégale. Musique.
Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Un monde sans paradis fiscal. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Poto, c'est la merde dans mon esprit. Je sais même pas comment vous le décrire. Ça m'a fait mal de voir des potos partir bêtement comme un fin et d'un coup de couteau. En ce moment, je suis pas d'humeur à faire la fête. S'il te plaît, crois pas que le buzz me montait à la tête. J'aime pas les histoires, je préfère les éviter. Mais j'aime beaucoup les litrons quand ils sont débités. Et j'ai pris du niveau depuis que j'ai débuté. Le jour de mon enterrement, vous serez tous invités. J'ai remplacé le PM par le Audi. J'ai même arrêté de crier comme ça, c'est Audi. Tu vois que le buzz, l'argent est le succès. Mais est-ce que tu connais mes soucis? Arrêtez de croire que tout va dans ma vie. J'ai perdu mon marmot, j'ai trop mal à la vie. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal.
Il compte sur moi, oui, il compte sur moi. Obligé de poser même si je touche l'illégal. Et quiconque me stoppe, oui, ego, quiconque me stoppe. J'ai taglé, y'a pas de match amical.
Survie, c'est le thème de nos vies.
Demande au taximan qui conduit en Conakry.
Survie, oui c'est le thème de nos vies.
Une pensée pour ces familles de loger sans abri.
Le WTP au début, y'avait pas de logo. A 5 sur un plat d'un loco, mandat mes locaux. Seul, le commissariat voulait nos photos. À l'époque où l'alcool et la dis volaient nos propos.
Survie, c'est le thème de nos vies. Fais avec ce que la vie te donne, peu importe ton avis. Même si un tsunami vient et perfore ton
sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal.
touché l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal. Je voulais réussir ma vie sans toucher l'illégal. Dans un monde sans paradis fiscal.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
L'interview.
Et on va maintenant passer à l'interview. Et donc, on est en ligne avec Claire Bentolila, comportementaliste animalier.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Si vous en êtes d'accord, nous allons vous poser tour à tour des questions sur votre parcours professionnel, puis des questions sur les métiers de comportementaliste animalier plus généralement.
D'accord.
En quoi consiste le métier de comportementaliste animalier ?
Alors, le comportementaliste animalier, c'est un conseiller qui est spécialiste de la relation entre l'homme et l'animal. Donc, concrètement, il aide les propriétaires à résoudre les problèmes de comportement de leur animal. Alors, ça peut être des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, des cochons d'Inde, enfin, tous les animaux que je considère, moi, comme animaux sociaux.
D'accord. Pourquoi avez-vous décidé d'être comportementaliste animalier ?
Alors, en fait, j'étais salarié dans une entreprise et puis je voulais faire autre chose dans la vie. Je voulais changer de métier. Je voulais travailler avec les animaux depuis longtemps et donc j'ai découvert un métier de comportementaliste animalier un peu par hasard. Et je me suis dit que, tiens, c'était peut-être une bonne idée d'aller voir un peu ce que c'était. Et donc, j'ai suivi une formation et je me suis rendu compte que c'était un métier absolument génial et très intéressant. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier, mon deuxième métier. Voilà.
À quel âge avez-vous fait vos débuts ?
Alors, j'ai commencé à 40 ans. Donc, j'ai mis du temps avant de décider de changer de métier. En fait, je m'étais dit tout simplement que j'avais fait des études pendant 20 ans, que j'avais bossé pendant 20 ans et qu'il fallait que je change pour les 20 ans suivants. Voilà, donc j'ai fait mes études de comportementaliste à 40 ans.
Pouvez-vous nous décrire une de vos journées de travail ordinaire ?
Alors, je me déplace. En fait, j'ai des rendez-vous comme un psychothérapeute ou un psychologue. J'ai des rendez-vous, je vais chez les gens. Donc, j'ai un carnet de rendez-vous. Je considère que le rendez-vous dure environ 2 heures. Comme je suis en région parisienne et qu'il faut un peu de temps pour se déplacer, je considère qu'il faut au moins 1h30 entre 2 rendez-vous, voire 2 heures, parce que il faut 1 heure en gros pour se déplacer. Voilà, donc je me déplace chez les gens, ça dure le rendez-vous dure 2 heures, après je reviens. Ce que j'essaye de faire, c'est un rendez-vous le matin, un après-midi. Parfois, j'ai 2 rendez-vous l'après-midi. Ce qui se passe beaucoup, c'est qu'en région parisienne, les gens travaillent, les deux membres de la famille, puisqu'en fait, j'essaye de rencontrer tous les membres de la famille. Donc, le père et la mère travaillent souvent et souhaitent avoir des rendez-vous le soir. Donc, à ce moment-là, j'ai des rendez-vous de 14 à 16, par exemple, et de 17h30 à 19h30. Voilà, donc ça, c'est lundi au vendredi, et puis parfois le samedi après-midi. J'ai aussi des rendez-vous parce que les gens ne travaillent pas le samedi, et donc ils voudraient, pour rencontrer tout le monde, c'est aussi plus facile le samedi. Voilà.
Combien de temps faut-il pour adopter et pour aider quelqu'un qui vient d'adopter un chien?
Ah, pas beaucoup de temps en fait. Moi je travaille sur des rendez-vous donc de 2 heures et sur des thérapies brèves, si on peut appeler ça des thérapies. Donc quelqu'un qui a adopté un chien, il prend rendez-vous de 2 heures. Je reviens un mois après pour 2 heures ou 1 heure et demie pour faire le bilan de comment ça se passe, etc. Et puis voilà, en général, les gens ont tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre avec le chien. S'il n'y a pas de problème rencontré particulier, c'est-à-dire que si la personne adopte un chiot et prend rendez-vous dès le début, sans problème particulier, c'est 2 rendez-vous maximum. Si par contre, il adopte un chien, ça peut être un chien adulte ou... Et puis, il y a déjà des problèmes de comportement. Ça peut être 2 rendez-vous ou 3. Mais en général, 2, ça suffit. Donc, au bout d'un mois, donc entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, donc il y a un mois d'intervalle, au bout d'un mois, c'est réglé.
Pouvez-vous nous donner quelques conseils avant d'adopter un chien?
Alors, avant d'adopter un chien, on peut aussi... à faire venir un comportementaliste, prendre un rendez-vous. Donc là, il n'y a qu'un seul rendez-vous, par contre, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de plusieurs rendez-vous, normalement. Mais on peut aussi, le comportementaliste peut aussi venir après, une fois que le chien a été adopté, pour affiner des choses. Donc, quelques conseils avant d'adopter un chien, donc appeler un comportementaliste. Ensuite, il faut choisir le chien, faut aller voir l'élevage. Si on veut un chiot qui vient d'un élevage, on choisit l'élevage. Il faut que... moi, je conseille que l'animal soit élevé dans un environnement similaire à celui dans lequel on veut le faire vivre. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un chien qui doit vivre en ville, un éleveur qui vit en ville ou à proximité d'une ville et qui emmène ses chiots dans un milieu un peu de ville, ce serait pas mal. Si par exemple on a des petits-enfants, un éleveur qui a des petits-enfants, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de prendre un chien de race, des chiens croisés, ça marche aussi, c'est pareil. Un chien, c'est un chien. Il faut attendre 2 mois et demi. Voire 3 mois pour adopter le chien, parce que en fait la mère, donc la chienne, éduque ses chiots, et si elle les éduque pas assez longtemps, ils sont moins bien dans leur tête. Donc il faut attendre un peu de temps pour que la chienne éduque ses petits. Donc il faut aussi que la chienne soit au contact de ses petits pendant 2 mois et demi, 3 mois, et pas après le sevrage on enlève la chienne. Donc ça, c'est important. Je dirais qu'un chiot qui vient d'un élevage familial, c'est super bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut aussi mesurer la taille du chien en fonction de qui on est. Si on est une personne âgée, on va peut-être pas prendre un énorme chien qui tire comme un fou furieux. Et puis, si... une histoire de goût. Hein.
Que faites-vous si un chien devient agressif? Que faites-vous si un chien devient agressif?
Alors, un chien agressif, ça dépend. Donc, il faut identifier la cause de l'agression, parce que agressif, ça veut tout dire et rien dire. Donc, agressif, c'est un chien qui grogne, un chien qui monte les dents, un chien qui chique, un chien qui mord. Ça dépend déjà de ça. Ensuite, il y a des circonstances dans lesquelles se passe l'agressivité. Donc, ça peut être le chien est sur le canapé, on va le faire descendre et il grogne. Ou alors, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison et il chique ou il mendie les mollets. Ça peut être qu'il court après un vélo quand il est dehors. Ça peut être qu'il se jettent sur les chiens quand ils les croisent dans la rue. Donc il peut y avoir plein de raisons différentes d'agressivité. Donc ça, c'est le symptôme. Après, il faut voir la cause. Donc la cause peut être diverse. Ça peut être un problème hiérarchique familial. Ça peut être de l'hyperattachement. Ça peut être aussi des peurs. Le chien peut être peureux. Ça peut être des problèmes de territoire. Donc j'essaie d'identifier en fait la cause du problème, parce qu'en fait, pour proposer des solutions aux propriétaires, il faut connaître la cause, sinon on ne peut pas résoudre le problème. Donc une fois que j'ai identifié la cause, je travaille avec les propriétaires pour trouver des solutions, sachant que les solutions doivent être acceptables pour le propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va mettre en œuvre les solutions, puisque c'est lui qui vit avec le chien. Donc en fait, je fais des propositions, mais elles sont adaptées en fonction du mode de vie et de la personne, de la personnalité du propriétaire. Et donc, on met en place ensemble, finalement, des solutions qui peuvent être des solutions d'apprentissage, mais aussi des modes de vie qui sont différents ou d'autres choses qui peuvent être plus personnelles, on va dire. Donc, et puis une fois qu'on a mis ça en place, moi je reviens un mois après et on fait le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, du comportement du chien, est-ce qu'il a évolué? En général oui, je précise. Donc est-ce que le comportement du chien a évolué et est-ce que finalement il reste des petits problèmes? Et parfois, quand je reviens, c'est un autre problème qui est apparu, dit l'arbre qui cache la forêt. Donc on est sur un autre problème et on n'est plus sur l'agressivité. Donc, en général, l'agressivité se résout très vite. C'est-à-dire que, en général, au bout d'une semaine, le problème est résolu. Si tout se passe bien et si la cause est bien identifiée. Alors je dis ça parce que la cause, c'est les propriétaires qui me la donnent en fonction de mon questionnement, mais parfois, j'ai pas forcément l'information parce que les gens ne me le donnent pas ou des choses comme ça. C'est tout est dans la confiance, dans la relation, dans le soutien, et d'arriver à mettre en place suffisamment de confiance pour que les gens se livrent finalement sur qui ils sont et comment ils vivent avec leur animal. Donc voilà, un petit peu, ça vous donne pas des trucs. On trouve plein de solutions dans les bouquins sur mon chien fait ci, mon chien fait ça, mais si ça marchait, il n'y aurait pas de comportementaliste en fait. Donc moi je suis vraiment sur du coup humain, sur la personne, le propriétaire lui-même, qui il est, qui est son chien, comment est la relation et qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer le problème de comportement.
Madame Bentolila, merci beaucoup. Grâce à vous, on en connaît bien plus sur le métier de comportementaliste animalier. Merci encore. On écoute maintenant à nouveau un peu de musique.
Merci à vous.
On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît que penser de terre, apprends que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On vit ta tenue, mon gars, pour ce combat. On chipote pas, tu payes en test. Mon bord qui va gérer l'événement. Imagine ça, tu prends les mecs de la heure. Tu penses de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, devant l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Balé. Faut que les jalousies m'en va vite. À 11 ans, je vis ça à Barbin. Gardier, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardier, appétit.
Tout ça n'est qu'éphémère, pas les couilles si je te plais pas. Me mépriser, mes gars, faut me playback. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que mec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le checks, la rue, la vraie. Ah, puis tu la reconnais pas la porte claire. On se suit l'air que c'est moi qui le brasse. Ah, tu parles, on sait que tu ne brasses pas. J'ai plus cellulaire quand la ligne est restreinte.
Gardier, appétit, passe-moi par je la moula du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardier, appétit.
Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, passe par chez la moula du Brésil. Imbécile, veux par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Les formations.
Alors Thomas, quelques idées de formation pour travailler avec des animaux ?
Alors pour s'occuper de chevaux, par exemple, et devenir palefrenier ou soigneur dans un haras, on peut préparer et passer le CAPA soigneur d'équidés. Il existe 50 établissements en France qui préparent à ce diplôme, dont 31 en alternance.
Et pour suivre cette formation près de chez nous ?
Eh bien, c'est simple, l'établissement formateur le plus proche d'ici, c'est le CFA agricole de Quetigny, dans la banlieue de Dijon.
D'accord, mais si je veux faire un bac pro ?
Dans tout autre domaine, si on souhaite devenir pisciculteur ou ostréiculteur, il faut posséder le bac professionnel production aquacole. Cet établissement propose cette formation et le plus proche de Chalon est le lycée agricole du Morvan à Château-Chinon.
Ok, mais pour le BTS ?
Alors je propose le BTSA, production animale, pour devenir exploitant agricole. C'est pas loin d'ici, puisque cela se passe au lycée agricole de Fontaine, à 15 km de Chalon. Et attention, la formation ne dure qu'un an.
Merci Thomas, on passe à l'agenda.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
L'agenda.
Alors Stéphane, qu'est-ce qu'il y a à l'agenda d'orientation ce mois-ci ?
Au mois de juin, les futurs apprentis peuvent signer leur contrat ou pré-contrat avec leur futur patron pour ceux qui ont déjà trouvé une entreprise pour travailler en alternance. Et puis pour tout, il y a le brevet et la procédure de vœux à AFELNET pour les futurs troisièmes préparaux. Il faut déposer un dossier de candidature au secrétariat de son collège.
Et pour les portes ouvertes d'établissement ?
Pour les formations post-3e, toutes les portes ouvertes en Saône-et-Loire sont passées, il est trop tard. Mais on peut toujours aller visiter certains établissements en prenant rendez-vous et cela va être la saison des portes ouvertes en collège.
Et pour les salons ?
Il reste encore un salon fier d'être apprenti. Il y aura lieu dans la Nièvre à 9h le samedi 11 juin à 10h, de 10h à 17h.
Merci Stéphane, on passe au CV audio.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Les CV audio.
Ce mois-ci, on écoute les CV de Thomas et de Kéliane. On commence par celui de Thomas.
Je m'appelle Thomas, j'ai 16 ans. Cette année, je suis en 3e prépa pro au lycée Thomas Dumouret à Chalon-sur-Saône. J'avais choisi de faire ma 3e là-bas parce que je voulais découvrir les métiers du bâtiment. Mes loisirs sont la pêche. Je suis gentil, je suis bavard. J'aime travailler dehors. L'an prochain, je veux être en apprentissage en métallerie. Plus tard, je veux être métallier. Le monde professionnel, pour moi, cela signifie d'avoir un salaire.
Et maintenant, on écoute celui de Kéliane.
Je m'appelle Kéliane, j'ai 15 ans. Cette année, je suis en 3e prépa pro au lycée Thomas Dumouret à Chalon-sur-Saône. J'ai choisi de faire ma 3e là-bas parce que je souhaitais faire une 3e professionnelle. C'était bien. J'ai fait 9 ans de judo et 1 an de rugby. J'adore faire de la moto et voir mes potes. Je suis gentil, mais trop franc. J'aime travailler à l'intérieur. L'an prochain, je vais faire un apprentissage. Plus tard, je vais être plaquiste à mon compte. Le monde professionnel signifie que c'est avoir une paye et se mettre à son compte puis construire sa vie.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Parole de professionnel.
Durant notre reportage, nous avons donc rencontré Marion Diry. La revoici à présent, qui évoque rapidement son métier en dehors de ses activités à la SPA.
Alors moi, je travaille avec les chevaux, je suis passionnée. Donc je me lève tous les matins, j'ai envie d'y aller. Je peux me lever à 6h le matin, des fois à 5h, je m'en fous parce que j'aime ce que je fais. Donc, c'est une passion et le travail passion, du coup, d'un seul coup, c'est merveilleux parce que, des cours, monter à cheval, faire de la compétition, enfin de tout ce qui encadre un métier, en l'occurrence là le mien, mais un autre, si c'est ici un soigneur animalier, les gens qui sont ici sont pas forcément passionnés quand ils arrivent, mais parfois le deviennent, ou le sont de base, et du coup ça donne une énergie pour bosser dans le froid, dans le bruit, toute la pénibilité devient supportable.
Et maintenant, quelques conseils de sa part concernant nos choix professionnels et nos études.
C'est important de faire des choix qui vous correspondent, qui vous vont, et parce que vous allez y passer votre temps. Si on passe son temps dans un lieu où on n'est pas bien et où on n'est pas passionné, ou même en tout cas super intéressé, on s'ennuie vite et ça devient vite pénible. Et du coup, pour ça, il faut se donner un peu de mal, quoi, au départ, clairement à l'école, c'est sûr. Mais plus on donne du mal au départ à l'école, plus on a des chances derrière de quand même s'offrir une situation chouette. Après, chacun de trouver en soi, en lui, ce qui passionne, ce qui l'intéresse. Mais il faut vraiment aller là-dedans, pousser là-dedans, et puis on peut aller loin, parce que des fois, on croit qu'on n'est pas capable. En fait, quand on pousse la porte de la formation ou de l'école qui forme, on se rend compte que si on a la motivation et l'envie, en fait, on arrive à bien des choses. Bien plus que ce qu'on pense à la base. Voilà. Donc, moi, je vous pousse à poursuivre vos envies, vos rêves, entre guillemets, et à y aller, quoi. Vous arrêtez pas. Après, vous êtes dans un âge où vous avez plein de questions, il y a des gros choix à faire, c'est pas simple. Mais faites-vous vraiment plaisir dans vos choix, j'ai envie de dire, pour pousser derrière des formations qui vous intéressent, quoi, et les faire au mieux.
Nous la remercions pour ses réflexions.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Cette émission, merci de l'avoir suivie attentivement. Nous espérons que vous en savez plus sur les métiers en lien avec les animaux.
C'était la dernière émission de l'année scolaire. Vous retrouverez une nouvelle saison dès la rentrée scolaire prochaine avec les nouveaux élèves de 3e Prépa Pro. Cette émission a été préparée par Vanessa, Diezen, Kéliane, Sébastien, Stéphane et Thomas, aidée par Monsieur Baudiot, enseignant documentaliste au lycée Thomas de Moret. Vous avez écouté Illégal de Gradure et Afrotrap partie 5 de MHD.
Le générique de l'émission a été réalisé à partir du titre Zénith du groupe OPA pour auboutdufil.com.
Merci à Radio Prévert de nous accueillir. À très bientôt.
Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez votre orientation.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Mais 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi ?